100% rouge et jaune. 100% rouge et jaune. Toute l'actu du HCBN.
Jérémy Pignard, bonsoir.
Bonsoir Mylène, salut à tous. 100% rouge et jaune, exceptionnel. Ce soir, on est en direct du Spielbar de la Tissot Arena. Émission spéciale en direct, on est ensemble jusqu'à 19h20 en partenariat avec le HCBN. Rejoignez-nous d'ailleurs si vous êtes dans le coin près de la Tissot Arena, si vous êtes supporter du HCBN, si vous avez aussi envie de poser vos questions à Gaëtan Haas, le capitaine qui est notre invité exceptionnel ce soir. On va évoquer avec lui les derniers résultats du club, mais surtout parler des Jeux Olympiques. Bah oui, ça commence déjà officiellement vendredi, donc après-demain. On sera aussi vers 19h avec Grégory Beau, journaliste au Blic Sport en direct de Milan. Et ensuite, ce sera parole aux supporters, ceux qui voudront venir poser leurs questions en live à Gaëtan Haas. 100% rouge et jaune, c'est la spéciale en direct du Spielbar et on est super heureux de passer cette soirée avec vous.
100% rouge et jaune, toute l'actu du HCBN.
Avec le capitaine du HCB, Gaëtan Haas, qui est avec nous pour ce 100% rouge et jaune. Salut Gaëtan.
Bonsoir.
Comment ça va Gaëtan? C'était un peu repos là depuis le match à Kloten ou alors non, il y a quand même eu de la glace?
Non. On a eu un jour de congé lundi et ensuite force mardi, aujourd'hui glace et force. C'est pas encore les vacances, non?
Ouais, donc ça chôme pas. Bien le coupera un petit peu plus tard que les autres clubs hein, dans cette pause olympique.
On a la pause à partir de samedi.
Alors Gaëtan, aussi international suisse, tu as joué les JO, ceux de 2018, de 2022. Tu vas prendre du temps évidemment pour suivre de très près ce qui se passe à Milan. On sait aussi que tu as un statut potentiel de réserviste, donc peut-être devoir partir au cas où.
Je dois dire, vu que j'y suis pas, j'y pense pas trop. Je dois être honnête, les derniers jours... J'ai eu un petit coup de... Ça m'embête de ne pas y être. Je pense que je ne vais pas forcément trop suivre. J'ai plutôt profité de la famille. Et s'il devait y avoir une surprise qui arrive, c'est clair que je serais plus qu'honoré. Mais là, pour l'instant, le focus, c'est plus... la semaine d'entraînement et ensuite récupérer un peu avec la famille aussi.
On en parlera avec toi tout à l'heure et avec un autre ex-international suisse qui a aussi joué, on en parlera plus tard, c'est peut-être un grand mot, mais qui a aussi participé aux Jeux Olympiques en tout cas. C'est notre ancien gardien Christophe Val. Salut Christophe.
Salut Jérémy.
On n'est pas bien là mon Christophe
au, on est toujours
au
bien.
Spielbar,
hein. On est toujours bien.
Voilà. Et fidèle au poste également, Laurent Petitin, journaliste au JDJ. Salut Laurent.
Bonsoir.
Bon, tu as dû te remettre de ce dernier match à Kloten. C'était pas l'extase.
Oui, pendant 45 minutes, c'était bien. Puis malheureusement, à la fin, pas le résultat espéré, un peu à l'image de la saison jusqu'ici. Mais rien n'est perdu, comme l'a dit Christian Dubé. Alors, il faut rester optimiste. Et puis, peut-être qu'il y aura une belle surprise début mars.
On en parlera tout à l'heure dans le débrief. Avant de parler des JO et de l'actu du club, ça avait bien commencé. Comme tu l'as dit, Laurent Soulaire Dubé, match encourageant à Lausanne, double victoire à la maison contre Rapperswil et Ajoie. La fin de semaine dernière a été un petit peu plus compliquée. C'est la rétro de la semaine, Ajoie, Zurich, Kloten.
100% rouge et jaune. La rétro.
Gaëtan Haas qui laisse filer pour Rayala. Il y a un 2 contre 2. Il y a Savlatnik au deuxième poteau. Rayala qui feinte et qui va marquer. Chef, ouais. Tony Rayala 6-2 pour le HCBN. Rayala qui va tenter de mettre ça dans le trafic, c'est même pas passé loin du but.
Un goal!
Marc Sévon, encore un assist, mais il est génial ce petit bonhomme pour Petr Čajka. 1-0 face à Zurich. Mathias Kukan le lance et Kukan est le but. Oh, que c'est bien joué de la part de Jean Kukan. Et bien, qui craque encore en box-play, ça commence quand même à être une sacrée maladie. Ces dernières secondes à jouer, ouais, et le cinquième, il est là. Baltis Berger encore en power-play. 5-1 pour Zurich.
Elias Andersson qui va pouvoir reprendre derrière le but. Andersson qui contourne la cage et goal pour Elias Andersson, comme un roublard là qui est venu se faufiler sur le côté. Blessing, attention, le puck qui traîne, où est-il? Satéry qui est couché, encore la possibilité, c'est l'égalisation pour Kloten. Aïe 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 aïe, ouais, celle-ci elle fait mal. Alors que là c'est Lindroth qui a un petit peu d'espace pour s'avancer. Lindroth le tire et c'est goal. Kloten qui s'impose ce soir face à cette équipe du HCBN qui a de quoi regretter ce soir puisqu'elle menait 2-0 dans cette partie même si elle n'a pas réalisé un grand match.
100% rouge et jaune.
Voilà pour la rétro, Gaëtan, t'es comment après ce week-end et puis cette dernière défaite 3-2 après prolongation à Kloten? Déçu, fâché, peut-être le sentiment qu'il y a quelque chose qui a été raté?
Oui, bah, c'est clair que du moment où tu mènes 2-0, tu dois ramener ça à la maison. Malheureusement, on a perdu énormément de points sur les fins de match cette année et énormément de points sur des box-play. Et il faut être beaucoup plus intelligent dans le futur.
Et malheureusement, les adversaires directs ont gagné leur dernier match au classement. Bienne est toujours 11e avec 5 points de retard sur Langnau et Berne qui sont 10e et 9e. Tout de suite, c'est les étoiles. C'est parti pour le débrief.
100% rouge et jaune. Le débrief.
Laurent, pour distribuer les étoiles, qui as-tu choisi de mettre en avant cette semaine?
Alors pour moi, 3 étoiles, Petr Čajka, parce que je trouve depuis quelques matchs, il prend vraiment de plus en plus d'ampleur sur le jeu, dans les deux sens de la patinoire. Puis depuis qu'il est au centre, il amène aussi beaucoup offensivement, beaucoup de buts. Bah, contre Rapperswil, c'est lui qui met le but décisif à la fin, un tir incroyable. Je trouve qu'il a vraiment une influence énorme sur le jeu. Et puis c'est vraiment une bonne pioche. J'étais un peu sceptique parce qu'il n'avait pas brillé jusqu'ici dans le championnat de Suisse. Mais ce transfert réalisé par Martin Steinegger, on voit qu'il amène vraiment quelque chose dans l'équipe. C'est ça qui je trouve, ouais, c'était un des meilleurs éléments des dernières semaines.
Oui, moi je suis d'accord, je l'avais mis 2 étoiles à Petr Čajka. Je trouve effectivement saignant dernièrement, il a été buteur contre Rapi Zurich. Quand même un joueur qui sait s'adapter, je trouve, et il faut le reconnaître parce qu'il a été pas mal bougé sur différentes lignes, différents partenaires. Et puis dernièrement, ben, il a quand même régulièrement cette efficacité, il fait le job et il se fait, il change de ligne aussi sans broncher évidemment. Et je trouve qu'il fait plutôt une belle saison pour le statut incertain avec lequel il était arrivé. Christophe, qu'est-ce que tu en penses?
Bon, Čajka, il connaissait quand même le hockey suisse. Hein, il connaissait le championnat. Et quand il était du côté de Rapperswil, hein, je crois, c'était quand même un sacré joueur, un sacré pointeur. Il avait des bonnes mains. Il a toujours les bonnes mains. Et puis, par contre, vous dites qu'il a été un petit peu baladé de gauche à droite. Je crois que c'est un peu le cas de tous les joueurs du HC Bienne.
Ouais,
il y a Gaëtan qui sourit. On peut lui poser la question. Il a joué avec combien de coéquipiers?
Je crois bientôt avec tout le monde.
Effectivement, ouais, il y en a eu beaucoup qui ont subi cette instabilité parce qu'il y a eu beaucoup de brassage, parce que ça ne fonctionnait pas très bien. Donc, il a fallu à chaque fois aussi effectivement changer les lignes et essayer d'autres associations. Pour la suite, Laurin, 2 étoiles.
Alors, 2 étoiles, moi j'ai mis Fabio Offer parce que c'est le top scorer de l'équipe. Je crois qu'il est repassé devant Elias Anderson, mais vraiment, Fabio fait une toute belle saison. Même qu'il a 35 ans, le poids des années, ça le rend presque meilleur. Je ne sais pas, Gaëtan, ce que tu en penses, mais il fait vraiment, depuis quelques temps, il était vraiment Fabio, vraiment en forme.
Ouais, bon, ça fait maintenant ma 5e saison ici. Il a toujours été excellent. C'est un joueur qui n'a pas besoin d'être bon physiquement pour être bon sur la glace. Et puis, je pense qu'il le montre à tout le monde. C'est vraiment un gars solaire. Il fait du bien dans le vestiaire. C'est un peu la vieille école, quoi. C'est un jeu pour lui, le hockey, et c'est pas un travail, et ça se ressent sur la glace.
Et c'est un tout malin.
Ouais, puis on voit son but contre Kloten, il a cette finesse technique là, il couche le gardien, puis après il la met tranquillement, relax, alors que beaucoup de face à face avaient été loupés. Lui, il a réussi à le mettre, quoi. C'était vraiment cette classe, comme tu dis, Gaëtan, vraiment un joueur, quoi, disons.
Ça se ressent à l'entraînement aussi que c'est pas un travail le hockey pour lui ou...
Oui.
C'est pas le plus gros bosseur.
Non, mais il en a pas besoin parce qu'il est, très bon comme ça. Et puis je pense qu'il y a énormément d'exemples où des joueurs ont voulu commencer à travailler et changer de physique. Et ensuite, ça allait plus sur la glace. Donc il faut pas qu'il change.
Moi, je trouve Fabio Hofer, c'est un peu le retour, parce qu'il a eu quand même une période où il n'était pas forcément pas bon, mais il y avait un certain manque d'efficacité dans les stats par rapport à ce qu'il avait connu. Et puis là, on retrouve un Fabio Hofer qui, à nouveau, effectivement, s'aligne sur la feuille des pointeurs régulièrement, avec 3 buts sur les 4 derniers matchs. Et puis, il fait toujours partie de ceux, il y a quelques-uns comme ça, mais qui ont cette capacité de rebondir quand ils ont traversé une période un petit peu plus délicate. Et puis, effectivement, là, on retrouve tout le liant qu'il est capable d'amener aussi dans le jeu.
Oui, bon, ça c'est un joueur, on le sait, hein, comme il a dit Gaëtan, super intelligent, il sait se cacher, il sait être là au bon moment. Bon, les gardiens ne doivent pas l'aimer, hein, je pense, hein, parce qu'il est toujours assez difficile à cerner. On croit qu'il est tombé, mais non, il se cache derrière le poteau, et puis il y a ce puck qui va arriver, et puis c'est lui qui va le mettre au fond. Non, non, c'est un joueur que le HCB a besoin, malgré que c'est 35 ans.
Et puis la dernière étoile, du coup, j'ai nommé, je trouve qu'il a été un peu meilleur depuis qu'il a le champ d'entraîneur, même s'il fait une très bonne saison difficile, c'est Harry Seteri. Moi, je trouve que depuis 2-3 matchs, on retrouve quand même son vrai niveau. Dimanche à Kloten, il a fait ce qu'il a pu pour retarder l'échéance, notamment avant le 1-0 de Bienne. Il a 2-3 gros arrêts. J'ai trouvé vraiment en progression, même si il est en dessous des 90% d'arrêts toujours. Donc ça reste quand même moyen quand on connaît de quoi il est capable. Mais j'ai trouvé depuis quelques matchs, il y avait une amélioration dans son jeu. Je ne sais pas, Christophe, ce que tu en penses sur...
Alors, on va plutôt poser la question à Gaëtan. Est-ce que c'est le système un peu défensif qui a changé en une quinzaine de jours, et c'est peut-être un peu plus facile aussi pour la défensive et le gardien?
Oui. Je n'ai pas besoin de faire des théories, oui.
Oui, c'est ça. Hein.
Toi, l'œil de l'ancien gardien, tu le trouves aussi effectivement différent sous l'ère Dubé, déjà, Harry Seteri?
Oui, c'est peut-être plus facile pour lui de faire les arrêts au bon moment, puisqu'il y a peut-être un peu plus de vision de jeu pour lui. Mais effectivement, comme on l'a dit, il est un petit peu meilleur, c'est vrai, mais l'équipe est aussi meilleure. Donc ouais. Je crois que tout le monde a quand même augmenté son niveau de jeu, et donc le gardien en fait partie.
Moi, je suis d'accord avec le « un petit peu meilleur ». Je n'avais pas forcément mis dans les étoiles, Harry. Je m'étais mis un petit mot « encouragement » pour Harry Seteri, parce qu'effectivement, les prestations sont quand même mieux. Il y a quand même quelques big saves dans des matchs importants contre Ajoie. C'est un match très particulier, Ajoie. Hein. Il n'y a que 12 tirs cadrés, il en prend 3, donc il n'a que 75% d'arrêts. Mais il y a quand même un ou deux arrêts très importants quand le score est un peu plus serré, notamment devant Eisen. Donc effectivement, Laurent, il y a eu quand même des gros sauvetages qui ont permis à Bienne d'aller chercher un scénario peut-être un peu plus facile après.
Ouais, puis après, je trouve d'un côté, ça permet aussi d'un peu débattre par rapport à ces étrangers qui peinent un peu sur certains matchs. On les voit, après on les voit plus trop, puis c'est pas forcément en même temps qu'ils jouent bien. Puis c'est peut-être pour ça aussi que Bienne, maintenant, il y a quelques points qui manquent par rapport à d'autres équipes, peut-être.
Toi, Gaëtan, en tant que capitaine, les étrangers... Pas encore, on l'espère que c'est seulement pas encore, ou à leur prime. Quel regard tu as là-dessus en tant que capitaine du vestiaire aussi sur la saison?
Je suis pas toujours d'accord avec vous. C'est clair, ils sont tout le temps jugés au point, mais ils sont pas tous là pour des points. Et oui, en fait, quand tu as une équipe qui tourne pas, tu as beau être... le McDavid du hockey, tu vas avoir des problèmes à faire tes points. Et là, on le voit, on a chacun eu notre moment un peu plus compliqué dans la saison. Et c'est quand une équipe tourne, c'est toujours plus facile de faire tes points. T'es un peu plus serein, tu tiens ta canne un peu moins dure. Et puis, c'est toujours plus facile. Là, actuellement, on se bat avec ces sales places depuis le début de saison. Et à chaque fois, on se dit qu'il faut les mettre au fond, il faut faire la différence. Et puis, je pense que ce n'est pas la bonne approche. On devrait être un peu plus tranquille, un peu plus... Ouais.
Posé, intelligent.
Exactement. Je pense qu'on veut trop à certains moments. C'est ce qui nous coûte aussi énormément de points.
Moi, j'ai mis aussi encouragement à Rayala parce que il a retrouvé le chemin des filets. C'est une chose pour les stats, mais on le sent aussi. Il s'est senti un petit peu libéré après le match à Lausanne et puis ce premier but. Et puis sa volonté toujours d'amener beaucoup de pucks au filet, hein, de tirer. C'est ce qu'il nous avait dit d'ailleurs. Dubé m'a dit tu as toujours été un joueur qui tirait beaucoup. Donc quand tu as une demi-occasion, même, prends-la. Quoi. Et je trouve qu'effectivement, ça va ramener sans doute encore des effets positifs sur les derniers matchs.
Bon, il a eu une période où, comme tu dis, il n'a pas touché le filet, d'accord, mais là, il n'avait même pas d'occasion.
Il y a eu certains matchs où il y a eu très peu d'occasion.
Très, très rare. Hein, donc, peut-être l'effet du B, effectivement, peut-être qu'il lui donne un peu plus de confiance en lui. Vas-y, shoot, ferme les yeux.
Et puis moi, j'aimerais bien les revoir Elias Anderson avec Tony Rayala. J'ai le souvenir que la saison passée, au début, ils ont joué un peu ensemble avant qu'Anderson se blesse, et puis ça a marché assez bien. Là, il l'a refait dimanche, Christian Dubé. Anderson a marqué, ils ont quand même eu des occasions. Puis je pense, les deux, sur la durée, je pense qu'on peut essayer de les remettre ensemble, même si, évidemment, on veut bouger les lignes à chaque fois. On l'a vu, ça ne marche pas forcément toujours. Mais là, je pense, les deux ensemble, il me semble qu'ils sont quand même assez bons. Et puis j'ai toujours trouvé que quand ils étaient ensemble, bah, ça amenait du danger. Je trouve que c'est une association qu'il faut essayer sur la durée, peut-être.
Oui, la durée, il n'y a plus que 6 matchs. Donc ça sera peut-être pour l'année prochaine.
Pour finir sur les étoiles, j'avais quand même noté, moi, Marc Sever, que voilà, je tenais. Moi, j'avais mis une étoile pour Sever parce que, bah, au-delà des stats, je le trouve juste dans le jeu, rapide dans sa prise de décision. Je trouve qu'il étonne quand même match après match. Il a sorti certaines grosses prestations là. Il se fait pas mal cartonner par les adversaires aussi, et je pense que c'est synonyme qu'ils veulent un peu l'intimider parce qu'ils sentent que, ouais, mine de rien, il fait le job, le jeune qui est arrivé pendant que les autres étaient au championnat du monde du vin, Gaëtan.
Oui, il en a profité, c'est bien pour lui. C'est un jeune qui a tout ce qu'il faut. Je dirais qu'il manquait un petit peu l'attitude, notamment l'année passée. Cette année, en début de saison, pas évident pour lui non plus. Il est parti à Holton, il a mis le point dans la poche. Et là, il est revenu avec beaucoup d'envie, beaucoup de faim. Et on le voit sur la glace, c'est un joueur qui est pas évident à jouer, qui a sa petite personnalité, sa confiance, qui a pas peur d'aller emmerder tout le monde.
Qui aime beaucoup le trash talk sur la glace. Ouais.
Et c'est clair que quand tu donnes, tu reçois. Et ça, il est en train de l'apprendre aussi, mais dans le jeu avec le puck, il nous amène quelque chose de hyper intéressant.
Ah, ton ami Kevin Fay peut en témoigner du trash talk. Je crois qu'ils ont eu une petite explication les deux. Tu as des détails mais...
Moi j'ai juste dit à Crévin là, que j'ai dit écoute, tu m'as mis un peu dans une situation de merde parce que normalement je suis un peu censé venir te sauter dessus. Et puis là, typiquement.
Il lui a mis une belle boîte. Hein.
Témoin de mariage, je ne vais pas aller commencer à lâcher les gants contre, mais ouais, il a mis un bon check, je pense assez correct, mais dur. Donc, comme dit, il doit encore apprendre certaines choses.
On avance un peu dans le débrief parce que sinon on va être à la bourre. Il y a des progrès sous l'ère Dubé. En tout cas, on sent Gaëtan qui a un vent de fraîcheur, un vent un petit peu nouveau, une nouvelle envie peut-être aussi chez les joueurs. Le box-play, tu l'as effleuré en début d'émission, ça va être le chantier de la pause olympique parce que c'est un peu l'hémorragie. 8 buts sur les 6 derniers matchs et sur chacun des 6 derniers matchs, il y a un but concédé en box-play par Bienne.
Oui, c'est le problème de la saison. C'est ce qui fait qu'on est où on est. On a cherché des solutions, on a changé des choses, ça n'a jamais fonctionné. J'ai l'impression que les nouvelles idées étaient bonnes, sont bonnes. Malheureusement, quand tu prends énormément de pénalités, il y a un moment où tu te fais punir et c'est ce qu'on est en train de ramasser dans la tronche. Et c'est ce qui est hyper frustrant sur le dernier match. C'est quelque chose dont on parle, on répète. Pas prendre de pénalités bêtes, éviter de prendre des pénalités. Actuellement, notre boxeur n'est pas full confiance et on continue à prendre des pénalités bêtes et puis on se fait à chaque fois avoir. Je pense pas que la direction est mauvaise parce qu'il y a beaucoup de boxplay où il se passe rien pour l'adversaire, mais à chaque fois on se fait quand même punir.
Ouais, dimanche il y a eu 3 fois. Clotten en powerplay, Bien a bien défendu. Je trouvais que c'était cohérent, comme dit Gaëtan. Pas vraiment d'occasion pour Clotten. Et puis, une fois le quatrième, ça tenait bon pendant 1 minute 50. Et puis, il y a eu un cafouillage. Puis, Dario Meyer a pu égaliser. Mais ouais, je pense que dimanche, il y avait déjà un peu mieux dans ce.
Oui, dans ce à force d'être sur le banc des pénalités, c'est clair que tu encaisses. Hein, ça, il n'y a pas de miracle. Hein. Tu peux te donner 3 fois, 4 fois. Et puis après, la cinquième et la sixième, tu ramasses. Si tu ramasses des pénalités qui font partie du jeu, c'est OK. Ça fait partie du hockey sur glace. Mais par contre, c'est vrai que, comme dit Gaëtan, il y a des pénalités qui sont bêtes. Et c'est vraiment de l'intelligence de certains joueurs, et surtout pas dans les bons moments, de prendre de ces pénalités-là.
Et ce qui est frustrant, c'est que contre Zurich, tu enlèves les pénalités et puis le but dans la cage vide. Tu te dis, à 5 contre 5, il y a match et il y a possiblement possibilité d'aller chercher au moins un point contre cette équipe-là. Une petite projection sur les 6 derniers matchs, Gaëtan, dont 4 à l'extérieur. Quand on te dit ça, tu te dis, mince, calendrier défavorable ou non, quand on n'a plus le choix, on va au charbon. Et ma foi, les points, il faudra aller les chercher. Mais les autres en font des points aussi devant. Mais vous allez les jouer, Bern et Langnau.
Oui, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Après, c'est clair que quand on regarde qu'on a plus de matchs à l'extérieur qu'à la maison, au vu de notre saison à l'extérieur, ben, tu te dis plus mince. Mais là, on a un mois pour trouver les bonnes solutions et puis aller chercher ces points à l'extérieur, parce que là, on n'a plus le choix. Donc maintenant, c'est une course contre la montre. On a un mois pour la préparer et chaque match, ben voilà, ça sera faut aller pour gagner et ça doit pas être du hockey spectaculaire.
Pour le débrief, encore quelque chose sur le calendrier, Christophe ou Laurin?
Ouais, moi, je pense que ça va être compliqué quand on regarde les noms à jouer, mais Bienne a prouvé des fois, ils font un super match contre Davos à la maison au début janvier, donc il y a peut-être moyen de faire 3 ou 4 matchs dans cette lignée-là, je pense qu'il faudra, ça passera par là. Et puis, comme a dit Gaëtan, de confrontation directe, là, il ne faudra pas les louper. C'est peut-être ça qui peut laisser de l'espoir, que les autres, ils n'ont pas le droit, s'ils perdent contre Bienne, ils n'ont plus de joker. Donc c'est,
moi, je n'ai pas le calendrier dans sous les yeux.
Tu auras 3 clubs du top 5, Lugano, Genève, Davos, Berne à l'extérieur, Langnau, ce sera à domicile, et on recevra Zoug aussi, qui est quand même pas au mieux dernièrement.
Oui, parce que Laurent, tu disais que le dernier match, c'était contre Davos à la maison.
Non, à Davos.
Ah, à Davos, ouais, alors ça sera encore un peu plus compliqué. Je me suis dit, bon, effectivement, s'ils sont déjà qualifiés, ils veulent se préparer, je ne sais pas la préparation qu'ils veulent faire avant les play-offs, est-ce qu'ils veulent déjà être en mode play-off le dernier match de championnat ou pas? Donc, ça sera quand même compliqué, je pense, d'aller chercher ces points supplémentaires pour être vraiment du bon côté.
Et c'est l'avenir qui nous le dira maintenant, les gars. On va activer le mode Jeux Olympiques, JO, et on commence avec la chronique de Christophe Val.
100% rouge et jaune, dans la paillasse du champion.
Christophe, dans ta paillasse aujourd'hui, un souvenir, grand souvenir, j'imagine. Tu as été avec l'équipe de Suisse aux Jeux Olympiques d'Albertville. C'était en 1992. Je ne veux pas te... Hein, mais ça fait quand même ça fait quand même 34 ans.
Oui, exactement. Ouais. Exactement. Ouais, ça fait un petit bout. Ouais, alors, c'est vrai que c'était une expérience, superbe expérience. Malheureusement, nous, avec le hockey sur glace, on n'avait pas pu participer à l'inauguration parce qu'il y avait déjà des matchs de hockey. On n'était pas bon. Oh là là, on a fait un Jeux Olympiques qui n'était vraiment pas terrible.
Une victoire, 4 défaites en phase de groupe. Ça se jouait en 2 groupes de 6. Hein,
oui, il y avait 12 équipes. Je crois qu'on a fini 10e. Hein.
Oui,
ça doit être quelque chose comme ça. Mais ce qui nous a peut-être foutu un petit peu dans la merdasse, c'est que le match de préparation, juste avant d'aller à Albertville, on a joué les Russes de Bykov-Komutov à Fribourg. Et on avait gagné... exactement 5-1 ou 6-1. Puis là, on s'est dit, là, on est prêt. Là, on est bon. On est champion. Et puis le premier match, je ne sais plus contre qui je crois. Je ne sais pas si c'était contre les Français ou je ne sais pas. On avait déjà ramassé. Donc après, c'était assez compliqué.
Alors toi, ce que tu as vécu de particulier, c'est que tu étais 3e gardien. Il y avait Renato Tosio qui, lui, a joué l'essentiel des matchs. Il y avait Reto Pavoni.
Oui.
Et toi, tu n'as finalement pas été sur la glace. Qu'est-ce que tu as fait à Albertville en 92?
Pendant les matchs, tu prends quand même quelques statistiques pour l'entraîneur. Tu fais connaissance avec les tribunes. C'est toujours sympa. Je me souviens toujours aussi que le journaliste de la télévision italienne, je crois que je leur avais apporté, je ne sais pas quoi, des chocolats ou des trucs comme ça. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est le plus gentil. Non, mais bon, c'était une superbe expérience. Et puis bon, après, on a fait un petit peu des bêtises que je pense que maintenant, on ne pourrait plus.
Alors, vas-y, par exemple, c'est ça qu'on veut savoir, Christophe.
Tu veux savoir que, bon, j'avais piqué les clés à une personne, un accompagnant qui était français, qui était du coin, parce que nous, on jouait du côté de Méribel-Courchevel. Mmh. Et puis, c'est plusieurs paliers de station. Et j'avais piqué les clés de la voiture pour emmener un joueur, défenseur, roman, qui commençait le snow.
Snowboard. Ouais. Ah, donc vous êtes allé skier alors que
non, c'est... Moi pas. Non, mais lui,
alors c'est
lui,
purement interdit.
Oui, exactement. Oui, donc lui, là, je l'avais monté en haut des pistes. Et puis il était redescendu carrément dans la raquette d'arrivée sur la terrasse avec le staff technique qui était là. Bon, il avait changé, il avait une belle combinaison jaune, personne ne l'a reconnu et il avait freiné un petit peu au visage, c'était super sympa.
Et sinon, c'était la tournée des bars, la tournée des discothèques quand on joue pas trop en 92?
Non, bar peut-être pas. Ouais, bar, oui, discothèque, non, mais effectivement, on n'était pas tellement assidu d'aller voir les autres matchs quand on jouait pas le soir. Donc, on allait plutôt se promener et puis d'essayer de rencontrer les gens du village.
T'en as profité plus que les autres parce que tu jouais pas trop ou t'as réussi à emmener des titulaires
non,
aussi
mais,
dans les...
On n'était pas conscient, on n'était pas conscient de ce qu'on faisait parce que c'est vrai que quand on rentrait le soir et puis qu'il y a toutes les lumières de l'hôtel qui s'allumaient, on avait toujours la chiasse que l'entraîneur soit par là. Donc on a bien profité parce que je pense qu'après le deuxième ou le troisième match, on était déjà éliminé de la course pour les demi-finales ou quarts de finale, je sais plus comment ça marchait, mais on en a vraiment bien profité. Et en plus de ça, on a pu aller voir quand même quelques autres sports qui étaient super intéressants.
Tu as pu fréquenter d'autres athlètes ? On parle souvent un peu de cet esprit olympique dans le village, etc.
Alors, on n'était pas dans le village olympique.
Ah oui, c'est ça le problème, ouais. Parce que vous étiez un peu délocalisé, ouais. Vous, les hockeyeurs.
Le village olympique était vraiment à Albertville et nous, on était vraiment dans les hauteurs.
Merci beaucoup, Christophe, pour ce petit partage. Alors, Gaëtan, il a sans doute d'autres souvenirs de ces Jeux Olympiques, évidemment. C'est tout de suite l'interview de l'invité avec Gaëtan Haas.
100% rouge et jaune, l'interview de l'invité.
Déjà, Gaëtan, on a beaucoup parlé de ce statut de réserviste pour ces JO. Ça veut dire quoi, concrètement ? T'as un sac qui est prêt, au cas où ? Que tu as fait ces derniers jours ou...
Il a fait la valise.
Honnêtement, mais moi, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, j'ai juste eu un coup de téléphone avec Fichy au début janvier. Et voilà, il m'a juste dit que je n'étais pas de la partie, mais qu'au cas où un centre se blessait, j'étais dans ce potentiel à venir.
Tu l'as mal vécu ou alors tu t'es dit, vu d'où je reviens, parce qu'on rappelle que voilà, hein, en début de saison, on ne savait pas encore à quel niveau tu allais pouvoir revenir, tu te dis, finalement, ça reste normal et ça aurait peut-être fait trop que j'accumule encore ça.
Je te dis, après le tournoi de décembre, c'était plus ou moins clair dans ma tête, je me suis dit, ça va pas le faire. Du fait de où je reviens, ouais. Et d'avoir pas joué en niveau international pendant une année et demie presque. C'était vraiment un tournoi assez compliqué. Mais malgré le fait que j'ai eu quand même deux bons matchs. Non, j'étais parti du fait que ça allait pas le faire. Au moment où il y a l'appel, l'appel se finit et je me dis merde. c'est comme ça. Et ça fait plus. C'est plus il y a maintenant les deux derniers jours où tu vois beaucoup sur les réseaux sociaux que les gens arrivent au village olympique que maintenant ça commence un peu à m'embêter parce que c'est quand même quelque chose qui me tenait à cœur et de pouvoir faire des JO pas loin de la maison avec les gars des NHL. Et je pense que s'il n'y avait pas eu tout ce qui s'est passé au cours des deux dernières années, je pense que j'y étais. Là, malheureusement, ça n'a pas suffi.
Si tu regardes ta saison, tu penses le tournoi de Zurich, c'est là, je pense, les matchs avant étaient presque le mieux. Mais puis après, il y a eu un petit contre-coup. C'est ça qui, d'avoir eu enchaîné le rythme, ça t'as peut-être manqué de cardio pour enchaîner. Bien, comment tu vois ça?
Bon, de toute façon, ça s'est joué soit à Zurich, soit avant, et pas après. Donc. Je veux dire, si on est honnête et tout, pendant l'appel avec Fichy, il m'a clairement dit que il y en a qui ont eu des très bons championnats du monde l'année d'avant et qu'il y allait avec eux. Donc voilà. À moins que je fasse un tournoi incroyable à Zurich, je suis pas sûr que j'aurais pu y aller.
Pour parler de l'Olympisme, on a entendu les souvenirs de Christophe. Toi, tu as joué donc 2018 Pyeongchang, tu as joué également 2022 Pékin. Quels souvenirs tu en gardes ? Les résultats, on le sait, c'était pas top. Ça a été des désillusions. Mais qu'est-ce que tu en gardes ? C'est quand même, tu te dis, j'ai quand même fait les JO, j'ai gardé des images fantastiques.
Ouais, moi, au-delà de la NHL, les Jeux Olympiques, c'était plus un rêve que la NHL. J'ai eu la chance. Quand j'étais jeune, 17 ans, je pense, d'avoir pu faire les Young Olympia, là, les Olympiques
de la jeunesse. Ouais.
Et c'est un truc qui m'a marqué. Et c'est devenu un objectif en me disant, ça, j'aimerais vivre une fois. Donc, c'est vrai qu'en Corée, c'était un truc pour moi exceptionnel d'y être. La cérémonie d'ouverture, un truc incroyable avec des souvenirs vraiment super. Un super groupe. Malheureusement, les résultats ont été un peu
d'Anty. Et ensuite, malheureusement, on retourne, c'est en Chine. Et,
c'était Covid.
Pas de public, ouais. Covid, pas cool, quoi. Mais ça reste les JO, cérémonie d'ouverture, incroyable, nouveau. Et moi, j'ai adoré cette expérience, ce village olympique, d'être un peu avec tout le monde. Donc, c'était clair, quoi. Je voulais y être cette fois et malheureusement, ça n'aura pas suivi.
En 2018 et 2022, est-ce que la NHL était là ? Je n'ai pas souvenir.
Non.
Non. Ça fait 12 ans qu'ils n'y sont pas allés. Là, ça fait
du fait ouais. que ça fait un petit peu... voilà.
Ouais.
Tu as l'impression, peut-être, si on prend peut-être 2018, tu as bien connu Dominic Kaun après Edmonton. Eux, les Allemands, vous avez battu... Et puis après, ils font la médaille. C'est dur à avaler, ça, de voir qu'une équipe comme l'Allemagne avait réussi sur 2 semaines à faire ce que finalement vous auriez pu faire, vu qu'il n'y avait en plus pas les NHL. Quoi.
Ouais, c'était le but, hein. Mais malheureusement, il faut être prêt au bon moment. Et on ne l'était pas. On n'a pas fait les matchs qu'il fallait. Même ce match, je crois, contre les Allemands, on sort en 8e ou 8e ouais, ou quart. Ça, ouais. Match serré. Donc tu te dis que si tu le gagnes, ça peut être toi aussi. Mais ça, c'est. L'histoire, on la refait pas.
On passe en 2026. On a lu ces derniers jours peut-être la plus belle équipe de l'histoire pour la Suisse avec 10 joueurs de NHL dans un tournoi qui sera hyper relevé parce qu'on vient de le dire, la NHL est de retour 12 ans après finalement aux Jeux Olympiques. Elle peut légitimement viser quoi cette équipe, Gaëtan, toi qui la connais très bien même de l'intérieur?
Je pense qu'on peut aller chercher une médaille. L'avantage qu'on a avec les autres équipes, c'est qu'on joue depuis des années ensemble. Et ça, tu peux pas rattraper ça en 2 jours, quoi. Donc ça, c'est la grosse force de notre équipe, c'est qu'on se connaît tous et on a quand même de la qualité. Donc on n'a pas à se cacher. Je veux dire, c'était quoi au Danemark là? On a joué où?
Ouais, au Danemark.
Copenhague.
Quand
on allait chercher la médaille d'argent. On a battu les Canadiens qui avaient quand même, je pense, tous les gros, enfin pas tous les gros, mais une bonne partie des gros dans l'équipe. Donc
que vous battez à Prague un an avant aussi.
Voilà. Ouais. Donc on doit pas se cacher. Et je pense qu'on est capable d'aller chercher une médaille, mais après, on sait que voilà, il faut être prêt au moment où ça commence et il y a des grosses équipes en face quand même, quoi.
Ça va se dérouler en glace dimension NHL avec justement certaines équipes européennes, la Suède, la Finlande, qui ont quasiment 100% de joueurs NHL. Tu vois ça comme un désavantage pour la Suisse ou pas spécialement aujourd'hui, tous ceux qui ont fait leur junior, même en Suisse, ils savent jouer sur une glace NHL?
Bon, c'est un petit désavantage pour certains joueurs. Comme tu as dit, il y a 10 joueurs de NHL, donc je pense que... Eux, ils vont amener quelque chose dans l'équipe avec de l'expérience de la glace NHL, mais il y en a aussi beaucoup qui sont déjà allés jouer là-bas, donc qui ont fait des juniors, ou, comme tu dis, ou qui étaient en try-out, ou qui ont même eu des matchs en NHL. Je pense que ce n'est pas nouveau pour tout le monde. Je pense que le staff a déjà prévu la chose en s'entraînant sur la petite glace, sûrement. Donc, c'est pas un autre avantage, mais comme j'ai dit, ça ne joue pas que là-dessus. Je pense niveau équipe, à mon avis, on fait partie des meilleurs parce que ça fait on se connaît tous.
Le programme de l'équipe nationale, ils sont déjà là-bas?
Honnêtement, j'ai pas du tout regardé depuis l'annonce.
Alors pas encore. Et puis la NHL joue encore là en cette fin de semaine.
Hein.
Ouais. Et ils vont se retrouver seulement après. On en parlera avec Grégory Beau justement en fin d'émission. On sera avec lui. Il nous parlera un petit peu du programme.
Mais par contre,
est-ce
qu'il y a un match amical?
Oui, je crois qu'il joue contre la Lettonie à huis clos dans une patinoire là-bas, il me semble.
Ouais. On demandera après. Mais ce sera huis clos, effectivement. Ouais.
Ouais. Ouais, ouais. Ça, il y a un match.
Gaëtan, comment tu vois toi? Tous ces joueurs, tu dis, ils se connaissent. Comment ça t'inspire, toi, de voir des gars qui ont fait des... Bon, toi aussi, quand tu étais à Edmonton, tu étais venu après, mais comme Niederreiter ou Ishier, ils jouent des centaines de matchs. Et puis finalement, Nino, il est comme venu à chaque fois. Même une fois, il était presque un peu blessé. Ça, quel regard tu portes sur ça, toi?
Bon, énorme respect. Après, je pense que tous les joueurs, tu peux prendre n'importe qui. On a déjà tous joué blessés. On est tous déjà allés à un championnat du monde parce qu'on voulait y aller et puis on avait un ou deux...
Ça couinait quelque part.
Voilà, il y avait une égratignure à un endroit. Donc pour ça, je pense que c'est juste un truc qui fait partie de notre sport. Après eux, c'est vraiment des gars qui sont là pour le drapeau, qui sont fiers de représenter la Suisse. Nino, je le connais depuis qu'on est dans les juniors, on est la même année, donc c'est vraiment un super type. Et je pense que tous les gars qui sont NHL actuellement suisses sont des super gars. Et ils sont juste contents en fait, de retrouver aussi l'équipe et de pouvoir peut-être parler suisse-allemand dans le vestiaire une fois. Donc c'est tout des trucs qui fait que je pense depuis un moment, il se passe quelque chose avec cette équipe suisse. Il y a vraiment un esprit de groupe et c'est pour ça que tout le monde est hyper content d'y aller.
Mais je pense aussi que on parlait des grosses forces, des grosses nations, les États-Unis, les Canadiens, mais ils auront une pression énorme. En arrêtant le championnat NHL pendant 15 jours, s'ils ne font pas la grosse médaille...
Ah, parce que tu n'as pas le droit de perdre hein, quand tu es dans ces nations-là.
Je pense que l'entraîneur, là, il est peut-être un petit peu nerveux. Hein. De toute façon, il n'y aura qu'une médaille, une grande médaille. Si ce n'est pas le Canada et les États-Unis, je ne sais pas si on va revoir les joueurs de NHL au prochain JO.
J'aimerais bien avoir ton regard, Gaëtan, sur un joueur qui a été formé à Bienne, qui a quand même une ascension extraordinaire, c'est Yanis Moser. Pour ce qu'il réalise à Tampa Bay, on en parlait un jour en commentaire de match avec Christophe, il a le deuxième meilleur différentiel de NHL, il est à plus 38. Comment tu vois l'évolution de ce bonhomme et puis aussi le statut qu'il est amené à prendre dans cette équipe de Suisse pour les prochaines grandes échéances?
Ouais, c'est JJ, quoi. Enfin, je veux dire, depuis qu'il a commencé en Liga, ouais, j'étais pas là, je jouais contre, mais tu te rendais compte déjà de ce qu'il pouvait faire. Et c'est un gars qui a l'impression qu'il n'y a jamais une marche trop haute. Et il est hyper simple, et il va continuer à gravir les échelons. Et...
Il est doué au départ?
Ouais, c'est un gars, je pense que tu peux le mettre dans n'importe quel sport, il va réussir à trouver son chemin et puis faire des résultats. Et puis au-delà de ça, je pense que voilà, il a la famille qui est derrière, qui est plus que humble. Et je pense qu'il a été élevé comme ça. Il fait son chemin, il fait pas de foin. Et puis à chaque fois, il fait un étage de plus. Et puis on est tous étonnés, mais en fait, c'est juste normal pour lui.
Une dernière question avant qu'on passe à la suite, parce que l'heure tourne. Tu as 34 ans, Gaëtan. Comment tu vois ton avenir en équipe de Suisse?
Albertville,
c'est ça. C'est comme... Il est né pendant Albertville, Gaëtan. Ouais, comment tu vois ton avenir en équipe de Suisse? Parce que tu parlais de ton regret tout à l'heure, finalement, les JO, c'était peut-être une de tes dernières chances. Alors, à 38, tu peux encore les jouer. Hein, c'est tout à fait possible. Mais les risques, évidemment, en tout cas, les chances diminuent. Qu'est-ce que tu as encore envie de faire? Est-ce que le mondial, là, qui arrive, tu te dis... celui-là dans mon pays, j'ai envie d'y aller par contre.
Oui, bon, les JO, c'est fini. Hein. Ça, c'est cette année ou plus.
Ou plus.
oui, c'était une année qui était cochée, mais malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu l'année passée. Maintenant, l'objectif, oui, c'est de faire partie de cette équipe au championnat du monde. Et après ça, se poser la question de... Est-ce que ça vaut la peine de continuer ou est-ce que à cet âge maintenant, c'est le moment de stopper, laisser les jeunes et aussi se concentrer sur bien.
Et puis partir avec une médaille d'or aussi, parce que des défaites, malheureusement, voilà, on avait vécu ensemble celle de Prague, tu en as connu un paquet, et puis j'imagine que tu aurais envie au fond d'une fois la prendre, quoi.
Oui, on est passé maintenant quelques fois très proche, ça n'a jamais été des finales raté, on a toujours été là et ça se joue à un but, donc c'est dur à accepter, c'est des finales qui font mal tu ne sais pas quand la chance revient, en espérant que c'est cette année, mais ça serait plus que beau de pouvoir partir là-dessus.
En jouant justement les championnats du monde en Suisse, est-ce que tu penses que les joueurs NHL éliminés viendront?
Oui.
Comme ils le font chaque fois, de toute façon.
Chaque fois, et là, ouais. Je pense que c'est encore l'année où ils viendront encore plus.
Encore plus, oui.
Petite respiration maintenant, Gaëtan. On va parler avec toi de tes goûts musicaux. C'est parti.
100% rouge et jaune, dans la playlist de l'invité.
L'invité qui nous partage un tube de sa playlist. Alors la dernière fois, Gaëtan, on a reçu Yannick Sablatnik dans l'émission. Et puis il nous a passé du Lil Wayne, mais il a balancé deux, trois trucs. Il nous a dit notamment que Gaëtan se mettait des fois du Jul. Il dit voilà, dans le vestiaire.
C'est Marseille.
Oui, forcément. Mais c'est pas Jul que tu as choisi de nous partager. On reste quand même dans le rap français, mais des années 2000-2010. On écoute ce que tu as choisi.
On prétend pas être des modèles pour les gosses, ni pour personne d'autre. On tient juste à dire que le pont qui mène au succès est un pont fragile. J'ai demandé pardon sans qu'on puisse me l'accorder. J'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer. J'ai troqué mes études contre un disque de platine, tout en sachant tôt ou tard qu'on publie de piétine. J'ai vu des choses en grand, j'ai du grand.
C'est Section d'Assaut, Ma Direction. Vous avez reconnu la voix de Maître Gims, mais c'était sous Section d'Assaut, c'était pas le Maître Gims tout seul. Ça représente quoi pour toi cette musique, Gaëtan? Pourquoi tu l'as choisie?
Honnêtement, quand on m'a demandé, je savais pas trop sur quoi partir. Et puis c'est en fait une musique qui m'a un peu suivi pendant pas mal d'années maintenant. Je pense que c'est Huguenin qui est arrivé un peu avec ça dans l'équipe.
Anthony, ouais.
Exactement. Quand on avait la grande époque des romans, avec la Section d'Assaut, justement. Et là, en fait, l'année passée, si on écoute les paroles, il y a deux, trois paroles qui tapaient dans le mille un peu avec moi.
Ouais.
Et puis c'est une musique que maintenant j'ai plaisir à écouter parce que les paroles veulent dire quelque chose pour moi aussi.
Ouais, parce que Ma Direction, c'est le titre, ça évoque la résilience, le chemin parcouru, puis un peu les difficultés traversées sans abandonner, quoi, justement. Et c'est effectivement, quand j'ai écouté cette musique, je me suis dit, c'est exactement ce que tu as vécu.
Est-ce que tu les as vus en concert?
Non, après, c'est pas un groupe qui a tenu très 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 long, je crois.
Ouais, depuis 2012, c'est fini, ils ont fait 2000-2012, ouais.
Et puis,
T'étais trop jeune.
Ouais, voilà, ça doit être ça.
T'es le mec rap français du vestiaire? T'écoutes beaucoup de rap français?
Moi, je suis quand même hyper ouvert. Enfin, j'écoute un peu de tout. Après, quand ça vient au match ou comme ça, je suis assez rap français, ouais.
Et vieille école ou t'écoutes aussi ce qui est plus contemporain?
Je dirais plutôt vieille école. Mais après, j'ai aussi plaisir. Justement, ouais. Comme dit, j'écoute un peu de tout. Et puis
les NTM, IAM, voilà. Les grands classiques.
Oui, oui.
Ouais. Okay. Ça représente quoi pour toi, la musique? Est-ce que tu t'entraînes avec? Tu te salles de force, tout ça? Tu as le casque sur les oreilles? Ou alors tu arrives à vivre sans musique? Ou c'est très important?
Bon, ça dépend les moments. En salle de force, en musique, c'est très long. Donc oui, salle de force avec musique, avant match avec musique. Voiture, voiture, ça peut être radio, donc
RGB.
RGB. voilà, on a le droit de donner des marques ici. je pense que c'est la vie sans musique, c'est un peu chiant. Triste, quoi. Ouais.
Moi, j'aurais pensé que tu nous enverrais du Jump de Van Halen.
J'ai hésité, je l'ai déjà mis à mon mariage, Je me suis dit, pas exagérer.
Voilà, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Jump de Van Halen ouvre toujours l'entrée des joueurs au stade Vélodrome. Gaëtan, c'est plus un secret, hein, ça a été écrit, tu restes un fan de l'OM, même maintenant, t'as vraiment vécu une semaine un peu difficile.
C'était compliqué, heureusement, il y a eu le 3-0 de hier ou avant-hier maintenant.
Mais en Ligue des Champions, ça a été compliqué.
Ouais, il faut laisser aller. Après, je suis pas assez fan pour m'énerver. Ça m'énerve plus quand il y a ceux des PSG qui... Les fans, parce qu'ils ont du succès, qui viennent m'emmerder avec ça.
Bien, on va passer au quiz, parce que c'est l'heure du quiz, et puis c'est un spécial celui-là, parce qu'il sera en live avec un battle.
100% rouge et jaune, toute l'actu du HCBN.
On va accueillir nos deux candidats qui sont là, on va leur passer un micro. Tiens, Christophe, tu vas passer ton micro à notre ami. C'est les aléas du direct.
C'est comment ton prénom?
Dean.
Dean, alors.
Dean, vas-y, tu peux prendre le micro, Dean. Alors, Dean, on va faire un petit quiz ensemble. J'espère que tu n'as pas réussi à regarder mes réponses. Non, je rigole. Parce que c'était juste la feuille sous ton nez. Dean, est-ce que tu as un adversaire, Dean? Tu n'as pas d'adversaire? On va en prendre un chez nous. Alors, est-ce que tu veux concourir contre Christophe ou contre Gaëtan Haas? Il y a une question, ce sera peut-être facile pour lui, mais on verra.
Je sais pas. Gaëtan Haas?
Allez, Gaëtan Haas, c'est parti.
Il me fout de la merde, lui.
Vous êtes prêts?
Oui.
Il y a un peu dédicacé à gagner. Voilà. Vu que tu es contre Gaëtan, je t'annonce que tu vas probablement le gagner.
Ok.
Dans l'effectif actuel du HC Bienne, donc c'est le premier qui répond qui a le point. Le premier qui répond a le point. Il y a trois questions. Le premier a deux points, il a gagné. Dans l'effectif actuel du HC Bienne, combien de joueurs sont champions olympiques ?
Deux.
Ouais, c'est deux. Tu les as, Dean ?
Non, les deux. Je savais pas.
Alors deux Finlandais, forcément, parce qu'on ouais. n'a pas de Nord-Américain. C'est Harri Sateri et Toni Rajala, sacré en 2022.
Okay.
Deuxième question. Au JO 2022, Gaëtan Haas marque le premier but suisse du tournoi. Mais contre quelle nation ? Vas-y, Dean, fais des propositions. Les grandes nations du hockey, je te donne une analyse européenne. Ils ont été champions du monde en 2024 dans leur pays.
Ah, ok.
Tu t'en rappelles, toi, Gaëtan ? De ton but ? Ouais, ok.
Je dirais la Suède.
Ah, non, c'est République tchèque.
Ah.
République tchèque. Troisième question, on va quand même au bout. Notre directeur sportif, Martin Steinegger, il a lui aussi joué les JO. Est-ce que tu sais, Dean, quelle édition ?
Non.
Non. Gaëtan, tu sais, toi ?
Je sais pas, 1940.
Non, 2002, Salt Lake City. Hein, c'est pas si vieux que ça. C'est moins vieux que Christophe Wall. Dean, c'est pas grave, merci d'avoir joué avec nous. Tu as quand même gagné le puck dédicacé parce que Gaëtan, il en a des sacs remplis, lui. Et merci beaucoup. Tu viens d'où, Dean ? De quelle ville ou village ?
J'habite ici à Bienne, mais je suis né à Cuba et je suis aussi allemand. Mon père, il est allemand.
Ok. Et supporter du HC Bienne, tu es là régulièrement au match ?
Oui.
Super. Merci beaucoup, Dean, d'avoir eu le courage de venir participer. C'est cool. Bonne suite. Tu pourras aller, Cassie, qui est là. Elle va pouvoir te donner le fameux puck. Et on arrive dans Overtime. On va prendre tout de suite la direction de Milan pour continuer de parler des JO.
100% rouge et jaune. Overtime.
Et on est en direct avec Grégory Beau qui est à Milan. Salut Grégory.
Salut, comment ça va ?
Ouais, ça va, merci. On est en direct avec Gaëtan Haas, Christophe Wall, Laurent Petita du JDJ. Grégory, tu es journaliste pour la rédaction des sports du Blick francophone. Plante-nous un petit peu le décor. À quoi ça ressemble, là, Milan, capitale des JO, toi qui es déjà là-bas ? Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on sent dans la ville qu'on arrive effectivement dans la période des Jeux ?
Franchement, pas du tout. Non, je suis arrivé hier. Je suis arrivé hier à Milan et je suis allé me promener en ville. Et non, la frénésie olympique, c'est pas pour aujourd'hui, c'est sûrement pas pour demain non plus. Mais il faut se rendre compte que Milan, c'est une tellement grande ville que les Jeux olympiques, c'est presque anecdotique dans le sens où ça se passe à Cortina, ça se passe à Milan, à Bormio, ça se passe à Predazzo. Ici, on a finalement que le patinage de vitesse, short track, patinage artistique et le hockey sur glace. Donc, tant que les fans de hockey sur glace ne seront pas arrivés, j'ai l'impression que ça ne va pas être très festif, en tout cas d'un point de vue olympique. Il faut se rendre compte qu'à Milan, la cérémonie aura lieu à San Siro, donc le stade de football de l'AC et de l'Inter. Mais il y aura des matchs de Serie A pendant les Jeux olympiques. Et ça, c'est quand même un signe que la vie continue à Milan pendant, malgré les Jeux olympiques.
Et tu as pu voir la patinoire, cette fameuse Pala Italia Santa Giulia, là, ça ressemble à quoi ?
Alors, j'étais déjà venu il y a un mois pour voir justement les matchs de Coupe d'Italie, pour voir à quoi ça ressemblait. À l'époque, c'était franchement un chantier terrible. Autour, il y avait encore des grues partout, il y avait des murs étaient encore pas montés, c'était la Valachia niveau température à l'intérieur. Je pense que Christophe doit bien s'en souvenir, et Gaëtan aussi. Et aujourd'hui, il fait toujours aussi froid, mais là je crois que maintenant tous les murs sont montés. Les gens qui viendront sur place, faudra pas être surpris parce que c'est un peu, les finitions sont vraiment pas terminées. Par contre, à la télé, ça sera clean. La glace est là, la glace est en très bon état. J'ai parlé avec le Ice Meister des Jeux Olympiques cet après-midi et lui, il est très confiant quant à la qualité de la glace. Par contre, un petit détail, on annonçait 16 000 spectateurs dans la patinoire et finalement, c'est 11 400 le chiffre définitif. Donc, on nous a raboté 4 600 places dans la patinoire en raison de certaines parties qui sont pas tout simplement pas prêtes.
Oui, alors effectivement, quand tu dis qu'en Italie, c'est peut-être pas fini, un petit peu derrière, j'ai connu ça exactement à Albertville. Hein. Donc, oui. Avec la télévision, quand on voyait les images le soir, on voyait que c'était clean. Mais par contre, alors, derrière, dès qu'on se retournait, alors c'était un peu la catastrophe.
Grégory, la Suisse, elle est attendue quand, là, au complet, là-bas, les joueurs de NHL, c'est quoi le programme pour les prochains jours ?
Alors, l'équipe de Suisse sera présente pour la cérémonie, si j'ai bien compris, le programme qui est prévu. Ensuite, les joueurs de NHL, ben, Romagnosi, par exemple, joue encore dans la nuit de jeudi à vendredi un match avec Nashville, donc il sera clairement pas là. Le premier passage obligé, c'est lundi 9 février. Il y a ce match Suisse-Lettonie à 17h15 sur la patinoire d'entraînement. Et là, c'est un match à huis clos. J'ai essayé de voir si les journalistes avaient le droit de venir, mais visiblement, c'est huis clos aussi pour les journalistes. Et je crois que l'équipe sera complète, dimanche, sauf erreur.
T'auras tes espions, de toute façon, là.
Ouais, je vais en trouver.
Grégory, Jean-Fred de Beta, avec qui tu réalises le podcast Cold Facts, il a signé un papier qui parle de cette équipe de Suisse comme la plus belle de l'histoire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et puis, comment tu sens l'état d'esprit de l'équipe vis-à-vis de ce statut?
Alors, bon, je pense que malgré l'absence de Gaëtan, hein, on est quand même obligé de dire que cette équipe-là est vraiment belle.
Mais elle aurait pu être encore plus belle.
Exactement, avec une dizaine de joueurs de NHL, c'est clair que cette équipe, elle, sur le papier, elle est magnifique. Je pense qu'elle est complète. Ce que disait Gaëtan plutôt dans l'émission, je trouve intéressant que la Suisse a un avantage, c'est que tout le monde se connaît. Et c'est vrai que si on regarde une constellation de stars comme peut avoir le Canada par exemple ou les États-Unis, bah, ils ont 3-4 jours pour faire une équipe, pour créer une équipe. Tandis que ce groupe suisse bah, se connaît bien. C'est des joueurs qui ont de nombreuses compétitions ensemble. Donc, eux-mêmes, comment ils vivent le fait d'être la plus belle équipe de l'histoire, on va dire comme ça. Ça, je n'en sais rien parce que bah, justement, ils ne sont pas encore à Milan comme les spectateurs non plus. Mais moi, je n'ai pas l'impression que ça doit être quelque chose qui va les perturber plus que tant. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de voir l'émergence. Vous en parliez avant d'un Yanis Moser. Je m'étais aussi préparé sur le sujet. Il faut se rendre compte que Yanis Moser, c'est devenu un défenseur. Certes, offensif, toujours intéressant, mais défensivement, c'est devenu un des meilleurs défenseurs défensifs de NHL et joue plus de 22 minutes par match dans une des deux meilleures équipes de la Ligue. Et il a franchi un palier énorme ces deux, trois dernières années. Et de le voir en plus de Romagnosi, ça va vraiment être magnifique pour cette équipe de Suisse d'avoir une paire défensive comme ces deux. Je ne dis pas qu'ils vont jouer ensemble, mais d'avoir ces deux défenseurs dominants dans la même équipe, c'est vraiment un atout fort pour la Suisse.
Comment tu vois avec ce format la Suisse, donc il y a trois matchs, Canada, Tchéquie, je crois, puis France. Puis après, si tu es premier, tu vas directement en quart, ou bien puis après, c'est ça ou bien
c'est exactement
les premiers,
ça.
Les meilleurs deuxièmes, ouais.
Ouais, la Suisse va commencer contre la banane, France. Ce sera la France d'abord, le Canada ensuite, la Tchéquie en troisième. Et c'est trois groupes de quatre équipes. Et donc, les trois premiers sont qualifiés pour la suite. Et le meilleur deuxième est également qualifié. Les huit autres équipes jouent un huitième de finale. Et c'est ces huitièmes de finale qui ont été parfois compliqués pour l'équipe de Suisse par le passé. Là, c'est très clair pour la Suisse. Il faut mettre un écart aux Français dans le début. Ça fait prétentieux de dire ça, mais c'est quand même un fait. Il faut mettre un écart aux Français dans le premier match pour avoir un beau goal average. Peut-être pas prendre trop de buts contre les Canadiens ou du moins peut-être faire un exploit. On se rappelle de 2006, c'est pas interdit de rêver. Et après, battre les Tchèques. Et en cas de victoire contre la France et contre les Tchèques, derrière, il y a moyen de, au pire, ne peut-être pas être meilleur deuxième, mais au moins être bien placé. Parce qu'après, bah, ce sera un tableau avec les pires équipes du premier tour vont jouer les meilleures. Donc il y aura un adversaire plus abordable pour l'équipe de Suisse.
Pour finir, Gaëtan, tu as une question pour Grégory à Milan, savoir où tu vas peut-être atterrir ou non?
Alors, question ou pas, juste qu'il profite pour moi. Non, j'ai pas de question, écoute. C'est lui qui les pose normalement.
C'est pour ça que je voulais voir si ça te plaisait de passer de l'autre côté du micro ou pas. Bon, merci beaucoup Grégory en tout cas d'avoir été avec nous et nous avoir donné un petit peu le pouls de Milan. Merci d'avoir été dans 100% Rouge et Jaune. On te souhaite de très bons JO. Salut.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Ciao. Et nous, on continue. On va finir cette émission avec quelques questions du public pour Gaëtan Haas, parce que ceux qui sont venus ben, ont la possibilité de poser des questions directement à Gaëtan. Christophe, est-ce que tu acceptes de prêter ton micro? Ah, on en a même un autre. Il y en a même un autre. Non, c'est magnifique. Non, regarde, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, il y a Cassie qui nous aide beaucoup, qui va pouvoir aller donner le micro. Il y a Dean qui a envie de poser une question. Dean qui a joué tout à l'heure. Vas-y, la parole est à toi, Dean, pour Gaëtan.
Merci beaucoup. Du coup, j'ai une question. À Bienne, on parle beaucoup de l'identité du groupe, du club. Quand les résultats sont compliqués, qu'est-ce qui te permet de rester lucide et performant mentalement?
C'est jamais facile quand tu n'as pas les résultats. C'est parce que tu es un compétiteur, tu veux gagner. Donc, c'est clair, c'est pas des périodes faciles. C'est toujours mieux quand tu es devant. En fait, on cherche juste des solutions à l'interne pour avoir le meilleur résultat possible et puis ensuite passer par ces qualifications en play-in pour ensuite aller en play-off. C'est clair que c'est des hauts, des bas durant la saison. Tu as des moments où ça se passe bien, des moments où c'est un peu moins bien. Là, malheureusement, c'était un petit peu moins bien que du bien. Le côté mental est hyper important et faut pas perdre la tête et essayer de, comme j'ai dit, trouver des solutions en équipe avec le staff pour avoir les meilleurs résultats possibles.
Merci beaucoup, Dean, pour ta question. On va passer à la suivante. C'est Laurent, je crois, qui a une question pour Gaëtan Haas également. Laurent qui vient de Bienne, mais Laurent, on le connaît un petit peu, Laurent. Hein.
Voilà, salut l'équipe.
Voilà, écoutez, qui a fini ses 4 canettes.
Exactement. C'est l'ancienne équipe de la Stammtisch, Laurent.
Oh, ravi de voir, vous reprenez le flambeau avec gloire, avec votre propre identité. C'est très beau ce que vous faites.
Merci beaucoup.
Tu es venu espionner.
C'était la question. Voilà.
Donc
la question.
Le jeune fan Laurent a une question pour Gaëtan.
La question, tu le sais, vendredi prochain, je crois que c'est 21h10, 21h15, il y a Suisse-Canada. Tu aurais pu affronter Connor McDavid ce soir-là, hein, le grand Connor McDavid, tu n'y seras pas. Quand on regarde, on avait parlé tout à l'heure, 2018 et 2022, la Suisse s'est plantée aux Jeux Olympiques. Comme Romain Leufel, tu étais aussi, Gaëtan. Est-ce que tu n'as pas l'impression que Patrick Fischer veut repartir un petit peu avec du sang neuf? Parce qu'il y a quand même des joueurs, quand on voit du Ken Yeager, on se demande ce qu'il fait là. Un centre comme toi, t'aurais pu avoir sa place de 3-4e centre. Tu crois qu'il n'a pas un peu fait le ménage, le Patrick, là, pour sortir en beauté?
C'est aussi ses derniers JO, donc je pense qu'il a juste fait l'équipe qui pensait être la meilleure.
Donc sans toi. Hein.
Bah voilà. Donc tu as ta réponse. Hein. Mais j'aimerais rajouter que du coup, ça restera 1-0 pour As contre Connor McDavid.
Voilà pour la conclusion. Merci beaucoup.
D'ailleurs, je crois que tu as toujours le numéro de Connor McDavid. Hein. Tu auras un petit message avec mes salutations. Hein. Merci.
Je ne manquerai pas.
Merci Laurent. Et on a encore une question. C'est Liam qui a une question. Liam de Nido. Salut Liam. Liam, quel âge tu as, Liam?
J'ai 9 ans.
9 ans. Super Liam. Quelle est ta question pour Gaëtan?
Est-ce que tu te souviens quand tu étais en U12 et est-ce que tu marquais beaucoup de buts?
Bon, plus que maintenant, je pense, oui. U12, je pense que ça ne s'appelait pas U12. Chez nous, c'était Mini, Mosquito Mini.
Il y a eu les Mosquitos.
Novice, peut-être même. Non, Novice, c'est plus tard.
Et Mini.
Donc Mini, je pense.
Ou les Piccolo. Non, les Piccolo, c'est encore les plus
petits. Piccolo, c'est très jeune. Ouais. C'est là quand j'ai commencé, là, j'avais 9 ans. Donc ça doit être Mosquito Mini. Oui, je marquais plus que maintenant, oui.
Parce que tu joues en U12, Liam?
Oui.
OK. OHC Bien?
Oui. OK, je viens super. De finir l'entraînement.
Super.
Et est-ce que tu marques des buts?
Oui, pas mal.
Tu joues attaquant, alors, Liam?
Oui, on n'a pas encore nos places, normalement.
Ah, OK. Et Gaëtan Haas, quand tu le vois, tu te dis, c'est mon modèle, j'aimerais un jour être comme lui?
Oui.
Voilà. C'est tout ce que je te souhaite. Et puis, si tu marques des buts maintenant, c'est que tu t'en mettras plus tard aussi.
Merci beaucoup, Liam, pour ta question puis pour ton courage. C'est super sympa d'être venu pour poser une question à Gaëtan Haas. C'est déjà la fin de ce 100% rouge et jaune. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci, Gaëtan, pour ce moment partagé.
Ouais, avec plaisir.
C'était sympa. Merci au HC Vienne également pour sa collaboration pour cette émission. Et merci au personnel du Spielbar pour son accueil. Et merci aux quelques supporters qui sont venus. Merci, Christophe. Merci, Laurent.
Merci à toi.
Merci, Jérémy. Merci, Gaëtan.
Et puis, ce 100% rouge et jaune, il sera retrouvé en podcast sur le site de rjb.ch, onglet émission, puis chronique, et sur les plateformes de streaming. Désormais, c'est la pause. On se retrouvera pour la reprise du championnat mardi 24 février à Lugano. Et 100% rouge et jaune reviendra déjà 2 jours après, dès le 26 février. Ce sera normalement avec Martin Steinegger, le directeur sportif. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur le Facebook et l'Insta de RJB. Et à jour. Merci. Salut tout le monde.
Ciao, bonne soirée.
Retrouvez 100% rouge et jaune sur les plateformes digitales de RJB et à jour.
100% rouge et jaune.